nous sommes le 7 mars, 7 avril.
Oui.
Nous sommes le 7 avril 2012. Je vais vous demander de vous présenter.
Bien, François Chaussin.
Alors, je vais remettre un petit peu, voilà, plus près. Voilà, présentez-vous.
François Chaussin, 82 ans.
Vous êtes né où et quand ?
Je suis né à Landreville, en 1930.
Quel jour ?
Le 4 janvier.
Hein ? Et vous êtes né ici ?
Non, pas dans cette maison-ci, dans une autre maison.
Où ça ?
Dans Landreville, un peu plus loin.
Et que faisaient vos parents ?
Ben, mon père a été gazé de la guerre 14. Si bien que il a travaillé un peu, et puis après, de moins en moins, il travaillait, quoi. Hein. Autrement, ici, ils avaient peut-être 4-5 vaches, je ne sais pas. Moi, j'ai pas connu. Je vous dirais que je suis né, je vous dis, en 29. Non, je suis né en 30, et, en 30, le 4 janvier 30. Et mon père est venu ici avec ma mère, évidemment, en septembre 29. Il avait été gardé à la guerre 14 et puis finalement, ça s'est aggravé, quoi. Il ne pouvait plus travailler.
Est-ce qu'il venait d'où ?
Il venait de Landreville, il était de Landreville.
Et s'il est venu en 29 ici, dans cette maison ?
Pas, il est venu ici. Quand mon oncle, ou mon grand-oncle plutôt, est mort. Il a occupé la maison ici. Autrement, il travaillait avec lui de temps en temps. Pas de temps en temps, il travaillait avec lui. Et puis, je vous dis, il est devenu de plus en plus infirme.
Et quand vous étiez enfant, qu'est-ce qu'il faisait ?
Ben, il était mort. Enfin, moi, je l'ai connu à peine. Ma soeur, qui est... Non, et puis, elle ne l'a pas connu du tout. Il est mort, j'avais 3 ans. Si vous voulez. Autrement, bon, il faisait un peu l'agriculture, quoi. Un peu de vigne.
Et votre maman ?
Ben, elle, on était 5. Hein. Elle nous élevait, quoi. On n'en était plus que 6. Mais on a été 5. Elle nous élevait. Et puis après, elle a traîné les vaches. Elle n'en avait plus de vaches. Hein, comme... Mais elle a repris, quand j'ai repris la culture, moi, en 48.
Et ici, vous êtes allé à l'école où ?
Ici, à Andeville.
C'était où ?
Ben, en haut du pays. C'était une école primaire. Je devais aller dans une école d'agriculture, puis je n'y suis pas allé.
Et vous vous souvenez un petit peu de l'école ?
Oui. D'ailleurs, l'instituteur a été fusillé par les Allemands à Bar-sur-Seine, l'école de Landreville. Il avait... bien 12-13 ans. 12-13 ans de pratique.
C'était qui ?
Leclerc, monsieur Leclerc.
Vous vous souvenez un petit peu de lui ?
Oui.
Dites-moi.
Il était pour les enfants, il était très, très près de nous, quoi. Il était contre les Allemands. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été arrêté et fusillé à Bar-sur-Seine, sur la place.
Vous vous souvenez un petit peu du moment où s'est déclarée la guerre ?
Oui.
De quoi ?
Comment ?
De quoi vous vous souvenez ?
Eh bien, la déclaration de guerre en 1939. Septembre 39, début septembre 39.
Et de quoi vous vous souvenez ?
Ah ben je me souviens d'avoir été d'avoir suivi quand même un peu la guerre, suivi les renseignements et hein, et puis un peu emmerder les Allemands, quoi.
Comment ?
Comment ? Ben, faire des affiches. Des affiches.
Et vous étiez pas vieux ?
Non, j'avais 13 ans quand j'ai commencé.
Et c'était quoi ces affiches ?
Oh, mais il y a des affiches. Des affiches de Gaulle. Un peu d'affiches de la Résistance. Et puis, je ne dis pas de bêtises, en 1944, les Allemands une ferme qui est sur l'Andreville, qui a 3 km. Et ils ont fini par picher le feu. Moi, le maire m'a dit, cache-toi, surtout cache-toi, reste pas à l'Andreville. Va dans les vignes. Et la ferme, elle a brûlé. Mais, disons, il y avait le plus vieux, c'était un jeune qui avait 20 ans. Hein, il a été traversé par une balle, mais ça ne l'a pas. Ça l'a blessé, évidemment, mais ça ne l'a pas tué. Ça ne l'a pas tué. Hein, et puis il y avait 3 filles et un autre garçon. Ils ont arrivé à se sauver. Ils ont arrivé à se sauver, oui. On passait par le bois, il y avait un bois à proximité. Et il se retrouvait à sel.
Il y avait plus de bois à l'époque?
À cet endroit-là, oui. Du côté du Frasne, oui. Du côté de la ferme, il y avait plus de bois.
Et vous vous souvenez de votre certificat d'études?
Oui.
Ça s'est passé comment? C'était sous l'occupation?
Oui, c'était ça. C'était en 43. Hein. Je suis là. Bon, je prends, je fais l'examen, si vous voulez. J'arrive en tête, hein, bien en tête. On était deux en tête, les autres avaient zéro. Hein. Et puis, donc, c'était annulé. J'ai recommencé et j'ai eu 4 ou 5. Et pourtant, j'étais assez fort en calcul. Ben, on avait aussi la récitation, alors moi j'avais mis que les Allemands occupaient la France. Comme les aigles d'Allemagne. Mais j'étais fortement contre les Allemands. À 13, 12-13 ans, je me rappelle d'une opération que j'ai eue à Troyes. On monte avec ma mère dans le train. Hein, et puis, moi, j'arrache. Ça m'était réservé. Oui, ça m'était réservé, mais moi, j'arrache la fiche et je me mets là. Ah, ils ont respecté. Enfin, les Allemands, non, mais c'est les Français. Qu'on n'avait pas le droit, c'était mis qu'on n'avait pas le droit, évidemment. Et les Allemands, au contraire, je crois qu'ils m'ont dit, ils ont dit que je pouvais rester, que j'étais malade. Ils m'ont aidé à descendre du train, mais je ne me laissais pas faire, je ne voulais pas. Et puis, bon, chez nous, c'est aussi grand qu'ici, au moins. On a été perquisitionnés deux fois. Mais finalement, il y en a un qui était. Moi, j'étais avec un jeune qui fouillait partout, dans les toilettes, dehors. Il y en avait un vieux qui était avec ma mère dans le grenier. Non, voilà, un chantier, comment qu'on va faire? À ma mère, elle dit, ben, je ne sais pas, c'est pas à moi à décider. Oh, il dit, vous ne savez pas. On va laisser ça tomber. Une autre fois, le pays a arrêté, dont Monsieur Leclerc, entre parenthèses. Mais il y avait une cinquantaine de personnes. Comment?
Il y avait, pardon.
Une cinquantaine de personnes qui ont été emmenées à Troyes. Elles ont été 3-4 jours à Troyes avant de revenir à l'endroit.
Et pourquoi vous étiez contre les Allemands?
Pourquoi? Parce que j'étais contre les Allemands, ça ne se discute pas. Hein.
Et vous vous souvenez quand vous en avez rencontré, comment ils étaient?
Oh, ben, notre vie, ils étaient pas mal, hein.
Ils étaient corrects?
Oui, jusqu'à un temps qu'ils attaquent la ferme du Frein, quoi. Et encore, ma sœur revenait avec un revolver du gars qui était à la ferme, un revolver, des habits. Elle a passé près d'eux, ils n'ont rien dit. Lui, il s'est caché, puis au bout de 4 jours, il est parti à pied à Fès. Moi, j'étais en vélo pour prévenir un gars, le monsieur le maître, pour dire que Pierre venait péniblement, allait arriver à Fès. Mais bon, il y a le fait quand même que mon père était gradé, alors ça donnait pas des bons points aux Allemands, hein.
Et vous saviez ce que vous vouliez faire plus tard à ce moment-là?
Oui. Ah oui. Mon père dans son... Pas l'immort, mais... Dans ses derniers écrits, il souhaitait que je sois cultivateur.
Et vous étiez déjà enfant, vous aidiez?
Comment?
Enfant, vous aidiez à la ferme?
Ben, on n'avait plus de ferme. Ben non, ma mère était toute seule, et puis il y avait, on était quatre. Deux filles et deux garçons.
Mais quand est-ce que vous avez commencé à travailler alors?
Oh, j'avais 16 ans, 15 ans, à 16 ans.
Ah, pas tout de suite après le certificat?
Comment?
Pas tout de suite après le certificat d'études?
Ben, c'est-à-dire que, oh, un an et demi après.
Et vous aviez déjà fait les vendanges ou...
Oh, un peu, un petit peu, mais pas beaucoup de vignes. Hein. Nulle part d'ailleurs, hein, à l'époque.
Ah bon?
Ben non. Non, il n'y a pas beaucoup de vignes. C'était pas la misère, mais presque.
Mais votre père avait quelques vignes.
Mais quelques vignes. Quand il est mort, il n'y avait plus qu'une.
Et alors, qui s'en occupait?
Comment?
Qui s'en occupait?
Plus ou moins, lui, quand il a pu, quand il pouvait encore, et puis un ouvrier, un ancien belge.
Mais ensuite,
Ensuite,
quand votre père n'était plus là,
oui.
qui s'en occupait?
Ben, l'ancien, je vous dis, un Belge qui faisait le jardin chez nous, elle avait un grand jardin, il faisait le jardin, puis la vigne.
Et alors, donc, vous étiez adolescent quand il y a eu la libération.
Oui.
C'est quelque chose dont vous vous souvenez?
Ah oui. Je vous dis, les Allemands avaient brûlé la ferme du Frag, là, quelques mois, un mois et demi avant.
La ferme du...
Frag, une ferme isolée, qui était tenue par des Ardennais. Il y avait une ferme dans les Ardennes, et puis leur père avait acheté cette ferme-là. Et eux, ils étaient venus en 40. Alors, ils avaient plus ou moins caché les résistants, les Polonais,
Et à 16 ans, comment ça s'est passé? Vous avez cherché du travail ou comment ça s'est passé?
Ben non, disons, on avait des champs que ma mère avait loués, hein, et que j'ai repris en 1950. J'avais fait un peu de vigne avant, j'avais loué un peu de vigne avant, mais bon. Ça donnait pas grand-chose. Hein.
Et vous saviez, pour la vigne, travailler la vigne?
Oui.
Comment ça se passait, comment ça se pratiquait à l'époque?
Ben, il n'y avait pas beaucoup de... Si, il y avait la différence. Bon, on commençait toujours par tailler. Hein, par tailler. Et puis, on accrochait les plants. Hein. On les soignait quand même à peu près bien. Mais il n'y avait pas beaucoup de récoltes. Nulle part. Il y avait quelques gros vignerons qui faisaient 2, 3 récoltes, quoi.
Et pourquoi?
Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de récoltes. Parce que c'était mal fait, plus ou moins. Et les gens n'avaient pas d'argent. Il y a eu des années comme plus près en 47. Oui. Il n'y avait rien du tout, hein. Heureusement, il est venu à mourir spécialiste, quoi. Un gars qui s'est occupé, qui a donné des conseils, des leçons, etc. Et heureusement qu'il est venu. Hein, il est bien tombé. Il a conseillé les gens. Les gens l'ont écouté parce que il était très simple. Hein, il savait expliquer, si vous voulez. Puis moi, j'ai replanté de la vigne en 1962. C'est l'époque où tout le monde a replanté, a commencé à replanter. La plupart des gens, il y en a qui avaient planté un peu avant, mais la plupart des gens ont planté vers 60, 50 par an. Alors, évidemment, là, on faisait des récoltes. Hein. C'est pas comparable avec... c'était pas les mêmes plants. C'est pas comparable avec la situation précédente.
C'était pas comparable?
Non. La récolte était bien meilleure.
Et pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'avant, c'était plus ou moins mal fait.
Hein? Et qu'est-ce qui était mieux fait, alors?
Eh bien, les vignes, après, une fois qu'est venu comment qu'on pouvait l'appeler? Le modèle, si vous voulez. Hein. On a fait des vignes. Hein. Et je l'aime beaucoup moins que précédemment. Il y a joué un peu, mais ce n'est pas comparable. Hein. Les vignes étaient plus hautes. Elles étaient plus hautes. Ils gelaient moins.
Et vous aviez combien de parcelles?
De parcelles, j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais ça dépend de la surface. Hein?
Et ça faisait combien de surface alors?
Ouais, j'avais. Quand j'ai quitté, j'avais 4 hectares et demi.
Et au début, en 62?
Ben, j'en avais 40 à...
Sur 7 parcelles?
Alors, je n'ai pas acheté au... Comment ça s'appelait? On a acheté 1 hectare. Ah, je ne m'appelle plus comment ça s'appelait. C'était revendu par oui, c'était revendu, il rachetait, moi j'en ai racheté 1 hectare, non. Et puis j'en ai racheté à droite, à gauche, des petits bouts que j'ai regroupés.
C'était facile de les regrouper?
Oh oui, on arrivait encore à s'entendre. Ça vous fait rire?
Parce que vous dites, on arrivait encore à s'entendre. À l'époque?
Oui.
Ça a changé?
Non. Non, non.
Et à partir du moment où les gens ont commencé à faire de la vigne, où il y a eu un peu plus de richesse, est-ce que les mentalités ont changé?
Peut tête. Voyons. Pourquoi que je dise des bêtises? Un peu, peut-être.
Comment ça s'est fait?
Comment?
Comment ça s'est remarqué?
Comment ça s'est remarqué?
Comment vous avez pu remarquer qu'il y avait eu des changements?
Ah bien, si vous voulez, bon, j'avais des livres sur la vigne qui précisaient exactement ce qu'il fallait faire. Et puis, je vous dis, il y avait ce conseiller qui nous apprenait. Moi, il ne m'a jamais trop appris, mais enfin, il apprenait à beaucoup.
Vous avez appris dans les livres?
Oui. Et puis, par des vignerons, hein, j'avais fait, comme j'avais 12, pas 12 ans, non, mais 13, non, 14 ans, j'avais commencé à apprendre. Mais des vieilles vignes.
Où ça?
Ben, à notre ville. Ça me plaisait, il fallait que je fasse quelque chose. Alors là, les champs, la ferme était louée. Alors j'allais travailler un peu chez les autres, dans la vigne. Et je louais, j'avais loué des vignes. J'avais loué des vieilles vignes, qui n'en avaient plus beaucoup. Il fallait que les cultiver. On m'a donné un cheval. La ferme qui a brûlé, là, il était reparti dans les Ardennes. Et il m'a donné un cheval pour aller aux vignes.
C'était quand, ça?
En 50. Ou même 49.
Donc entre 50 et 62, vous étiez plutôt sur les choses agricoles.
Oui. Après, j'étais en GAEC avec un jeune, un peu vieux que moi, qui ne pouvait pas planter, qui n'avait pas de terrain, rien. J'ai poussé pour qu'il plante. Et puis, on s'est mis en GAEC. Et puis, on s'est séparés en 82.
Que les GAEC fonctionnaient plus?
Comment?
La GAEC fonctionnait plus?
Bon, si, mais bon, il aimait mieux travailler pour lui après.
Et ensuite, donc vous avez eu, en 62, vous avez fait de la vigne.
Oui.
Vous n'avez fait que de la vigne ensuite? Vous avez abandonné la culture?
Petit à petit, enfin j'ai abandonné. Je fais la culture en même temps.
Hein. Jusque quand?
Oh. Jusqu'à 92 peut-être, par là. J'ai fait de moins en moins de culture. Hein.
Et la vigne, vous avez continué jusque quand?
Jusqu'à 97. J'ai arrêté. J'ai joué.
Les techniques ont changé.
Oui, quand même.
Vous avez abandonné le cheval.
Oh, bah, il y a longtemps.
Alors, quels ont été les développements techniques?
Qu'est-ce que vous appelez développement technique?
Au début, c'était le cheval
Oui?
et la main, non?
La main, oui. Ça a été la main longtemps, hein. Encore maintenant, il y en a qui cultivent un peu à la main, hein, entre les plants.
Mais vous?
Moi, bah, généralement pour faire à la main, je prenais quelqu'un. Parce que j'avais du travail, je faisais du champagne en même temps.
Parce qu'au début, vous aviez de la vigne, vous champagnisiez.
Oh non, 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 j'ai chopinisé en 90, peut-être.
Et avant, que faisiez-vous du raisin?
Ben, je le vendais.
Mais à qui?
Ah ben, il y a toujours, il y a des acheteurs.
Mais qui vous achetait le raisin?
Eh bien, un acheteur. Hein, il y avait autrefois il y avait même deux acheteurs et puis après il y en a ah, il y en a toujours eu deux. Il y avait un moment qu'il n'y en avait plus qu'un et puis après il y en a eu deux.
Vous vous souvenez qui c'était?
Ah oui, je voulais les noms. Alors, est joli.
Et qu'est-ce qu'ils en faisaient?
Comment?
Qu'est-ce qu'ils faisaient du...
Ah ben, ça allait dans la Marne. Enfin, joli, il regardait peut-être un peu pour lui. Mais en gros, ça allait dans la Marne.
Et pourquoi vous avez eu envie de champagniser?
Parce que ça gagnait de plus. Hein. Puis bon, j'aimais ça. J'aimais ça. J'avais déjà des bouquins sur la champagnisation.
Alors vous avez dû aménager.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez fait comme transformation?
Bon, des petites transformations là, dans une grange où on faisait le champagne et puis où on conservait les bouteilles, les tonneaux, les cuves en face.
Et ça représentait combien de bouteilles?
Oh, j'en ai fait un peu plus. 40, de plus, peut-être 40 000. Hein, des grosses années. C'était un Marnais qui venait les chercher.
Des bouteilles.
Oui.
C'était pas votre nom sur les bouteilles?
Pas encore, après. Non, mais même en même temps, hein.
Et comment ça vous est venu de vous dire je vais mettre mon nom?
Oh, bah parce que tout le monde met son nom sur les bouteilles, hein, pour ainsi dire.
Et ça demande du travail supplémentaire?
Ah oui. Oui, c'est vrai.
Lequel?
Ah ben, coller les étiquettes, hein, et habiller, mettre les... Mettre le... Comment ça s'appelle?
Faut museler, non?
Comment?
Museler?
Oui, évidemment, mettre le museler. Le museler. Hein?
Et vous vendiez à qui?
Ah ben, j'en vendais plein au détail. Hein. Aussi bien à Paris qu'à Marseille. Qu'à... Si, souvent, j'en avais pas assez. Hein.
Mais comment vous trouviez vos clients?
Comment? Je faisais un peu de publicité.
Où ça?
Comment?
De la publicité.
Eh ben oui. Par exemple, François Chaussin, Grand Vin de Champagne, enfin, etc.
Où ça?
Ah ben sur mes étiquettes, ou sur des papiers.
Dans les journaux, non?
Non, pas dans les journaux.
Mais les papiers, ils partaient comment? Parce que vous dites Paris, Marseille.
Eh bien, c'était sur commande. Les gens m'ont commandé de Paris et de Marseille, par
exemple. Il faut vous connaître pour vous commander.
Oui.
Et comment ils vous connaissaient?
Ben, j'envoyais des prospectus. Ça vous fait rire?
Ça me fait pas rire, ça, j'écoute, j'entends ce que vous me dites. Et donc vous n'aviez plus assez de bouteilles?
Ah non, il y avait des, surtout à la fin, j'en avais plus assez.
Ben comment vous faisiez alors?
Ah ben j'en refusais.
Et entre le moment où vous avez acquis vos 4 hectares et demi,
oui,
et puis le moment où vous avez arrêté, les parcelles, les surfaces ont pris de la valeur, beaucoup de valeur.
Oui, c'est vrai.
Comment vous expliquez ça?
Ah, ben ça, c'est... Comment j'explique ça? Ça s'est fait progressivement. Hein.
Et c'était justifié?
Ah, ben tout le monde... C'est pas moi qui faisais les prix, hein.
Et pour vous, vous pensez que c'était justifié?
Oh, un peu.
Et à Landreville, dans les années 60, il y avait beaucoup de monde qui commençait à exploiter le champagne.
À faire le champagne, non. Non, non, c'est après que ça s'est fait.
Alors, il y a eu déjà les vignes, hein, le fait de cultiver la vigne, et ensuite...
Il y a eu la vigne et du champagne. Je vous dis, j'avais beaucoup de livres.
Et ouais. Vous vous êtes engagé à un moment donné?
Oui.
Pourquoi? Ah, bah, et dans quoi?
Comment?
Pourquoi, dites-moi pourquoi.
Pourquoi? Ben parce que je croyais qu'il fallait être engagé.
Hein? Alors comment ça s'est manifesté, votre engagement?
Eh bien, j'ai signé un engagement. Comme maintenant, c'est très possible que ça se fasse encore.
Vous pouvez me raconter comment ça s'est passé?
Alors, comment ça s'est passé? Si vous voulez, tous les ans, on est obligé de déclarer déjà sa récolte. Oui, sa récolte. Déjà, ce que vous avez en stock, et puis ce que vous récoltez.
Oui.
C'est la vendange au mois d'octobre, à peu près, ou des fois septembre, on déclare ce qu'on a récolté. Et pour le 1er juillet, non, le 31 août, non, 31 juillet, on déclare ce qu'on a en stock.
Et vous parlez des déclarations, mais quand on vend beaucoup, on vend en toute sa production, on n'est pas tenté de, quand on a un peu plus de raisins,
oui,
de faire un petit peu plus de bouteilles, non?
Ben, c'est surveillé, hein.
Oh, il y en a qui m'ont dit que tout le monde faisait un peu ça à l'époque. C'est pas vrai? Il y a prescription, hein.
Je me faisais ça, ça dépend, hein. Par exemple, à Villiers, il y a eu de gros procès parce que ils ont triché.
Et ça fait un peu peur à tout le monde, ça?
Après, ça, à Villiers, ça a fait peur à tout le monde. Moi aussi, une fois, j'avais fait une grosse récolte. Je l'ai conservée, mais j'étais contrôlé.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, ben voilà, vous avez tant de litres de vin en trop. C'est pas normal. Vous devez payer une amende.
Mais les conserver ou les jeter?
Comment?
Fallait jeter ou conserver?
Ils étaient conservés.
Vous n'avez pas dû les jeter?
Je n'ai pas jeté, mais ça a servi, paraît-il, pour faire du vinaigre.
Et à partir de quand est-ce que la législation a été plus dure?
Oh, plus dure. Toujours été à peu près pareil. Hein.
Il y a toujours eu des contrôles?
Oh oui.
Même dans les années 50, 60?
Oui, même avant. Je crois que c'est 1910 par là. Ou 1909. Les premiers contrôles.
Et est-ce qu'on vous a raconté, quand vous étiez enfant ou un peu plus vieux, les événements de 1911
J'avais tout ça. Mon père y avait gardé les registres.
Et vous en parlez?
Il m'en a pas, j'ai pas connu pour dire, mais il y en a qui parlaient. Hein.
Qui?
Mon oncle, par exemple, j'avais un oncle qui avait eu la jambe coupée à la guerre, mais malgré tout, il avait gardé une vigne, deux vignes. Ainsi, je me rappelle bien de 1911.
Qu'est-ce qu'il vous racontait alors?
Comment?
Qu'est-ce qu'il vous racontait?
Ah, ben que... Marnay voulait empêcher les Aubois de faire du champagne. Vous êtes au courant, quand même.
Alors c'est ça qu'il vous disait?
Oui, quelque chose comme ça.
Et lui, il avait un peu participé?
Oui, enfin, il revenait de l'école de Beaune, oui, de viticulture de Beaune, et il a un peu participé.
Mais ça, il vous a un peu raconté, quand même.
Comment?
Il vous a un peu raconté.
Pas lui, puisqu'il était mort, mais mon oncle.
Votre oncle?
Oui.
Il vous a raconté, votre oncle?
Oui.
Dites-moi, alors.
Oh, ben... Par exemple... on ne plantera pas des vignes autant planter des vignes Noé, autant planter des vignes à Noé les Malais. Que de planter des pinots. Il y a eu cette histoire-là.
Quelle histoire?
Eh bien, que c'était planté en pinot. Et que, je vous dis, certains vignerons voulaient continuer à planter en blanc. En blanc, raisin légal, quoi.
Et qu'est-ce qu'on vous a raconté, qu'est-ce qu'on vous a rapporté d'autre sur 1911?
Oh ben, que les habitants ont mis leur drapeau rouge.
Où ça?
Ben, aux maisons. À leur maison. Ma mère, mon père, je vous dis, il était à l'école de viticulture de Beaune. Mais ma mère a mis son drapeau rouge. Mais c'est un voisin qui lui a ôté. Elle était déjà partie aux vignes quand les gendarmes sont arrivés. Elle allait aux vignes, hein, régulièrement.
Parce qu'il y a eu quelques échauffourées avec les gendarmes.
Non. Non. Pas vraiment, non.
Et ils étaient où à ce moment-là, en 1911, vos parents?
Ma mère était en ville, et je vous dis, mon père était à l'école de viticulture de Beaune. Enfin, agricole et viticole. Vous avez les deux. C'est après que c'est devenu uniquement viticole.
Mais quels sont vos premiers souvenirs de vendange?
Oh, évidemment, j'allais vendanger chez mon oncle, un petit peu comme ça, les jeudis et le dimanche. Après, on a occupé des vendangeurs, quand on a eu pas mal de vignes.
Mais vous vous souvenez un petit peu, vous avez des souvenirs de ça, de vos premières vendanges?
Oui.
De l'ambiance qu'il y avait, si c'était dur ou pas?
Oui, il y avait une ambiance, il y avait une ambiance, une ambiance. Quand il y a une année, par exemple, en 1974, il n'y a plus tous les jours, tous les jours. Là, les vendangeurs, ils rigolaient pas, hein.
Et vous avez des souvenirs, d'anecdotes, de petites choses?
Ben, je vous dis, les années de juillet, on ne sait pas. Surtout à ce temps-là, maintenant, moi. Hein.
Et dans les années 60, ça vous est arrivé d'avoir de rien récolté?
L'année 60.
Dans les années 60.
Oui, dans les années 60. C'est arrivé une fois. C'était assez dur, hein, la vendange, quand même. Faut pas croire que c'était amusant.
Qu'est-ce qui était dur?
Ben, de vendanger.
C'est-à-dire?
Ah, mais couper les raisins et les mettre dans un panier. Vous le faites?
C'est aux mains, c'est dur?
Ben oui, et puis au vin. C'est pas trop agréable, hein. Bon, des fois, il y a une bonne ambiance, hein. Mais malgré tout, quand il pleut, par exemple, on se fait laver, quoi. Quand il pleut encore 3-4 jours, ça va. Mais quand il pleut, comme une fois, je vous dis, toute la vendange complètement.
Et alors quand, parce que c'est difficile et que tout a gelé,
Comme tout a gelé,
qu'est-ce qu'on se dit là dans ces moments-là?
on pleure.
On n'a que ses mains?
Il y a des fois que ça repousse, ou quand c'est de la grêle, en 77, par exemple, ça, 78 plutôt, ça a repoussé autant que s'il n'y avait pas une grève. Hein. Le contrôleur, il y avait mis qu'il n'y avait pas de grève. Mais après, il a pu faire la renvoyer.
Comment ça?
Eh bien, après, il en a pris un autre.
Et à partir de quand vous avez arrêté d'aller dans les vignes?
De louer.
D'y aller vous-même.
Ah ben j'ai été jusqu'au bout, jusqu'en 94, 13, 93.
Vous y preniez toujours autant de plaisir? Ou c'était toujours aussi dur?
Oh, je prenais encore du plaisir.
Vous n'avez jamais eu la tentation ou l'envie d'être en coopérative?
Ah si, j'ai même essayé d'ouvrir une coopérative. Ah, et puis ça, personne ne voulait.
Quand ça?
68 peut-être. Ou 69.
Alors comment l'idée vous est venue?
Oh, bah parce que il y a une coopérative à notre ville avant la guerre. Qui a été fermé. Hein, enfin, ça c'est pour certains. Il y a eu du. Pas du vol, mais. Il y a eu un viticulteur, enfin, des viticulteurs, une famille, qui ont monté la nuit. L'appareil pour faire du champagne. Et puis le champagne à la coopérative s'est retrouvé mauvais. Alors ils ont présenté le leur.
Et vous, alors, comment ça s'est passé? Comment vous avez présenté votre idée de coopérative?
Ah, oh, ben, comme j'ai présenté, il y en avait une coopérative, il y en avait une à Ville-sur-Arf, une à Fontette. J'ai copié là-dessus, si vous voulez. Il y en a deux au Rissé.
Et à qui vous l'avez présenté?
Ah ben, à des vignerons qui voulaient bien venir, et puis le conseiller que je vous ai dit, qui était là.
Et?
Ils n'ont pas voulu. Ça ne les intéressait pas. Ils aimaient mieux faire du champagne eux-mêmes.
Et pourquoi?
Pourquoi? Il faut leur demander. Même, je vous dis, j'étais en grec avec un viticulteur. Lui, il a fait du champagne, il en a fait, mais il ne tenait pas à en faire. Il ne tenait pas à être coopératif. Il fait son champagne à fond tête.
Il continue?
Oui.
Et c'était qui alors?
Vitrano. Ça vous dit quelque chose?
Et vous n'avez pas eu à un moment donné envie de vous engager dans des responsabilités ou dans des organisations?
Moi, j'en avais assez. Hein. Je m'occupais de la maison pour tous. Hein, je m'en suis occupé 43 ans. Hein. Puis bon, j'ai été adjoint, peut-être bien 30 et quelques années. J'ai été maire 7-8 ans, 7 ans. Alors, ça me suffisait.
Et en tant que maire, vous avez œuvré pour la vigne?
Oh, j'ai œuvré pour la vigne. J'ai fait ce qu'il fallait faire, quoi.
Et c'était quand? Vous avez été maire quand?
À la fin, ma dernière séance. Ma dernière séance, c'est une façon de parler. En 93. J'avais été adjoint, je vous dis, avant.
Et vous avez vu des changements dans l'Andreville? Il y a eu des possibilités de faire beaucoup de choses?
Oh, faire quelque chose, oui.
Et quand vous comparez l'Andreville quand vous étiez enfant,
oui,
et l'Andreville quand vous avez été maire, est-ce qu'il y a beaucoup de différences?
Oui, il y avait quand même des différences. Quand j'étais maire, on faisait des programmes, on a retapé l'église, qui n'est même pas terminée, mais enfin ça fait rien. Tandis qu'enfant, il n'y avait pas d'argent.
Et comment vous expliquez ça, la différence?
La différence, ben c'est qu'il y avait sûrement des impôts plus forts pour faire des travaux, quoi. Tandis que avant la guerre, même après la guerre, il n'y avait pas beaucoup de recettes, pas beaucoup d'impôts. Les gens ne payaient pas beaucoup d'impôts. Ils ne pouvaient pas. Enfin, il y en avait certains quand même, mais enfin, la grosse partie ne payait pas.
Mais est-ce que c'est la vigne qui a apporté la richesse ou pas?
Ça a apporté la richesse, c'est sûr.
La vigne?
Oui. Plus que l'agriculture. Et avant la guerre, c'était l'inverse. C'était l'agriculture qui versait plus d'impôts, plus d'argent que la vigne. La vigne n'en est pas grand-chose. C'était derrière des petites vignes morcelées. Bon.